Merci beaucoup pour cet exposé très clair. On va prendre une série de questions. Je voulais juste avant faire une remarque, moi, plutôt du côté des économistes qui étaient très prolixes sur la mondialisation pendant les années 90, jusqu'à la crise financière. Et puis quand vous regardez spécialement en français, il y a beaucoup moins d'ouvrages qui sont publiés sur la mondialisation et les analyses sur le sujet de la part des chercheurs sont souvent quand même des analyses qui amènent beaucoup de complexité aujourd'hui. C'est-à-dire, on réfléchit à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la désindustrialisation précoce d'un certain nombre de pays qui sont rentrés dans les chaînes de valeur de manière plus ou moins difficile. On parle beaucoup du délitement des classes moyennes dans les pays développés d'économies de marché. On regarde du côté des entreprises, on s'aperçoit que finalement, il y a à peu près toujours le même pourcentage d'entreprises qui sont vraiment directement impliquées dans les exportations. Et on regarde beaucoup plus près ce qu'on appelle l'hétérogénéité des entreprises, l'hétérogénéité des salariés. Et à force, avec toutes ces analyses qui se complexifient, les économistes se demandent quel est le lien entre la mondialisation, la croissance. Et je pense que les dernières statistiques ont peut-être renforcé cette perplexité. Quand on a vu le commerce international se ralentir et qu'on s'est dit que ce n'est peut-être pas uniquement une explication conjoncturelle à ce phénomène-là. Alors, avant peut-être de prendre toutes vos questions, est-ce que cette perplexité tardive des économistes vous évoque quelque chose ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Si on regarde l'histoire des rapports des intellectuels en tout cas dans le monde occidental et en particulier dans notre pays sur ces questions de mondialisation. Effectivement, on a connu une phase où il y avait beaucoup de mouvements anti-mondialisation dans les années 80, 90, au nom que c'était mauvais pour le développement. C'est la plateforme idéologique du monde diplomatique. C'est comme ça que le monde diplomatique est né. Cette globalisation, cette mondialisation, c'est terrible pour ces peuples qui ont droit à l'indépendance et au développement, et ça n'a pas marché. Cette flambée-là, qui a duré une vingtaine d'années, s'est arrêtée. Parce que s'il y a un truc qu'on peut pas, dont on ne peut pas débiter la mondialisation, c'est le fait qu'elle est à portée du développement. Et donc toute cette partie, qui était d'ailleurs tout à fait légitime, hein, parce que si vous pensez que c'est mauvais pour un certain nombre de peuples de cette planète, il faut être contre. Bon. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça a marché. Alors, après, il y a eu la crise financière, effectivement. Sauf que la crise financière, ce n'est pas un problème de mondialisation. C'est un problème de régulation. Et ce sont deux choses différentes. Si vous voulez, j'ai été confronté à ça de très près quand j'étais DG de l'OMC. Les échanges entre les États-Unis et le Canada sont complètement, entre parenthèses, entre guillemets, globalisés. Il n'y a probablement pas de pays en dehors de l'Europe qui respirent autant l'un avec l'autre sur le plan des échanges de biens, de services, etc. D'un côté de la frontière, le système financier américain a explosé. D'autre côté de la frontière, il n'y a pas eu le moindre problème. Ce n'est pas l'ouverture des échanges, notamment en matière financière, entre les États-Unis et le Canada qui était le problème. C'est le fait qu'aux États-Unis, c'était proprement régulé et qu'au Canada, ça ne l'était pas. Et si on avait écouté les Canadiens au G7, dans les années 80 et 90, on aurait adopté un système mondial de régulation de la finance qui ressemblait au système canadien. Donc, ce sont deux sujets différents. Et l'idée que, sous prétexte qu'on ne s'est pas régulé proprement, alors il faut arrêter d'échanger, ne fait pas de sens non plus. Hein, si on expliquait ça aux Indiens, aux Africains ou aux Chinois, ils vont sûrement pas être d'accord. Et maintenant, ils ont acquis les moyens de ne pas être d'accord. Alors, que l'impact de cette multilocalisation sur des processus de production ne soit pas aussi bien compris que par le passé, c'est normal. C'est très compliqué. Ce sont souvent des petits segments qui se sont installés sous forme globale. C'est beaucoup plus compliqué que de regarder dans les années 50 comment fonctionnait l'industrie de l'acier ou une industrie chimique intégrée, parce que tout ça c'était dans les mêmes entreprises, il y avait des normes et des visions communes. C'est très compliqué. Tout ce que nous savons, c'est que aujourd'hui c'est plus facile d'entrer sur le marché global que ça ne l'était avant. La contrepartie de ça, c'est que c'est aussi plus facile de s'en faire sortir. Rappelez-vous M. Mahathir, qui était un dirigeant de la Malaisie, qui n'est pas une grande puissance de cette planète, il s'était mis en tête de produire une voiture malaise. Elle s'appelait la Proton. Parce que fallait que la Malaisie pénètre le marché mondial et qu'elle a un gros avantage comparatif au départ parce qu'elle produit beaucoup de caoutchouc. Et à l'époque, il y avait beaucoup de caoutchouc dans les voitures. Il y en a encore pas mal, d'ailleurs, contrairement aux apparences. Mais à l'époque, il y en avait beaucoup. Et il s'est dit, voilà. Et donc, il a investi des milliards et des milliards et des milliards pour avoir une voiture malaisienne qui s'appelait Proton. Évidemment, le marché malaisien, ça ne suffit pas pour rentabiliser les coûts de lancement d'une voiture. Et il s'est cassé la figure. Et donc, la Malaisie a dû renoncer à son rêve automobile. Au temps où on produisait des automobiles et on les exportait. Sauf que la Malaisie, aujourd'hui, est un des plus grands producteurs automobiles dans le monde. Sauf qu'elle ne produit pas des automobiles. Elle produit des éléments d'automobiles. Et ils se sont spécialisés dans la production d'éléments d'automobiles. Et si vous regardez la valeur qu'ils créent, c'est-à-dire de combien ils nourrissent leur croissance en participant aux chaînes de valeur de l'industrie automobile, ils créent beaucoup plus de valeur compte tenu des volumes qu'ils font sur les pièces détachées qu'ils n'en auraient jamais fait en exportant cette fameuse Proton où toute la valeur ajoutée était censée venir de Malaisie. Donc je prends cet exemple parce que ça dit énormément de choses sur le système tel qu'il fonctionne. La désindustrialisation, à voir. Ce qui compte aujourd'hui, ce qui comptera dans 20 ans, ce qui compte dans 50 ans, c'est pas si on est dans l'industrie ou dans les services. D'ailleurs, la frontière entre les deux est de plus en plus floue. Si je sors la tablette que j'ai dans ma serviette, est-ce que c'est de l'industrie ou du service ? C'est un artefact, ça ressemble à un objet, mais si je regarde la valeur que constitue ce truc, il y a 98% de service, de jus de cervelle. Et il y a 5% de coque en aluminium qui est assemblée à Chengdu, parce que c'est assez commode d'assembler ça à Chengdu, compte tenu de où sont les fuseaux horaires et les communications de trains, d'avions et de bateaux. Bon. Donc, ce qui compte, c'est combien de valeur vous ajoutez. Parce que c'est ça. La valeur ajoutée, c'est les emplois. En gros, c'est les salaires. Il y a un petit peu plus que les salaires dans la valeur ajoutée, mais le gros de la valeur ajoutée partout, c'est les salaires, c'est les emplois, c'est ça qui compte. Bon. Et de ce point de vue, c'est comme ça qu'il faut regarder l'économie mondiale d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'étais DG de l'OMC, j'ai lancé cette croisade qui a réussi, je ne dis pas à ma grande surprise, parce qu'il faut toujours croire à ce qu'on lance pour que ça marche mieux, mais ça a réussi, qui consiste à enfin cesser de mesurer le commerce international en volume. C'est-à-dire que si vous incrémentez le commerce international à chaque fois qu'un bout de quelque chose franchit une frontière, parce que un des morceaux de la chaîne de production est dans le territoire dont il faut franchir la frontière, vous ne mesurez plus que l'extension des chaînes de production en mesurant le volume du commerce. Je prends un chiffre. Dans le temps, la France produisait une voiture qui valait 100, elle exportait en Allemagne qui valait 100, ou l'inverse, disons. Bon. Il y avait 100 de commerce international. Parce que la voiture valait 100. Bon, aujourd'hui, la voiture, elle est produite dans 5 pays différents. Chacun des pays ajoute 20% de la valeur, par hypothèse. Donc, le premier stade, il va y avoir 20% de la valeur, ça va passer une frontière, donc 20. Et puis, au deuxième stade, le deuxième pays va ajouter 20, et puis ça va passer la frontière pour aller dans un troisième pays qui va ajouter 20. Donc 20, à la seconde frontière, on mesure 40. À la troisième frontière, on mesure 60. À la quatrième frontière, on mesure 80. Et total, vous avez, au bout du compte, 300 de commerce international pour une voiture qui vaut toujours 100. Donc, qu'est-ce que vous avez mesuré entre le moment où vous mesuriez 100 et le moment où maintenant vous mesurez 300? Vous n'avez rien mesuré d'autre que le fait que la chaîne de production des voitures, elle s'étale sur 5 pays au lieu d'être sur 2. Bon. C'est très intéressant du point de vue de la mesure de la globalisation, mais ça ne dit rien de la contribution du commerce international à la croissance. Et aussi longtemps que vous regardez, que vous mesurez le commerce international en volume, alors que ces chaînes de production sont en train de proliférer dans tous les sens, c'est pas étonnant qu'on n'arrive plus à traiter correctement statistiquement le problème de la relation entre le commerce et la croissance. La seule solution, c'est de mesurer le commerce en valeur ajoutée. Alors évidemment, ça change beaucoup de choses. Et ça va prendre un petit peu de temps pour que les esprits s'y accoutument. Ça change beaucoup de choses. Si vous regardez le commerce mondial en volume aujourd'hui, un peu plus de 60% du commerce mondial, c'est des biens, et 40%, c'est des services, en volume. Si vous regardez en valeur ajoutée, c'est 65% de services, 35% d'industrie. Vous regardez la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine. En volume, elle est 100 de déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine. En valeur ajoutée, elle est de 50, la moitié. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de ce que la Chine exporte aux États-Unis, qui est comptabilisée à la frontière américaine comme une importation, ce sont des objets, par exemple des tablettes ou des téléphones, qui sont assemblés en Chine, mais où l'essentiel de la valeur ajoutée provient des États-Unis. Hein ? Parce que ça a été inventé là, parce que les brevets sont là. Dans un certain nombre de cas, ça a été inventé aux États-Unis parce que les brevets sont là, mais c'est produit sous forme de puces qui viennent d'ailleurs de Taïwan, de Corée ou du Japon. Et total, disons, l'iPad qui vaut 300 à la frontière américaine comme s'il était importé de Chine, là-dedans, vous avez 4 fois plus de valeur ajoutée américaine que de valeur ajoutée chinoise. Bon, donc c'est comme ça qu'il faut regarder. Et de ce point de vue, et je réponds à votre dernière question, si vous regardez la relation entre le volume de l'échange et la croissance, effectivement, il y a un ralentissement du volume, enfin disons, de la relation entre la croissance des économies et le volume des échanges, qui est tout simplement lié au fait qu'on est probablement dans une phase où l'extension de ces chaînes de valeur, qui expliquait la croissance en volume des échanges, est en train de se ralentir. Elle ne décroît pas, mais elle se ralentit, et donc, du coup, la relation entre la croissance et le volume a une élasticité, entre le volume et la croissance, a une élasticité moindre que ce qu'elle avait avant. Mais ça dit tout simplement que pour un certain nombre de raisons, et on pourrait les détailler, disons, c'est la prolifération de ces chaînes de valeur est un peu ralentie par rapport à ce que ça a été dans les 10 ou dans les 20 dernières années. Ça ne dit pas que ça dure. D'ailleurs, j'ai dit ça dans une interview dans un quotidien français samedi. Je ne suis pas sûr que ça dure, parce que les raisons technologiques qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre sont aujourd'hui très incertaines. Prenez les imprimantes 3D, qui vont sans doute fondamentalement redistribuer les cartes en matière de localisation des processus de production. On ne sait pas très bien dans quelle direction. Il y a des gens qui disent « Ah ben c'est bon, parce qu'on va faire de la relocalisation ». On n'aura plus besoin d'aller faire fabriquer son truc en Chine. On va faire ça à la boutique d'à côté. Il y en a d'autres qui disent « Oui, mais attendez, à ce moment-là, les Indiens, je peux vous dire, ils vont arriver à faire des économies d'échelle telles que ce n'est plus les Chinois qui en bénéficieront. » Mais bon, donc, je pense qu'on ne sait pas très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont les modalités de ces systèmes de production qui changent à toute vitesse. Et que les économistes soient parfois un peu un peu perdus parce qu'ils n'ont pas forcément les modèles qui correspondent à la réalité. Ça ne m'étonne pas trop. Encore une fois, je pense que l'essentiel, c'est de situer où est la valeur ajoutée et de mener les politiques publiques qui sont celles de permettre de la maximiser, parce qu'encore une fois, à la fin, c'est ça les emplois.
Merci. On va prendre 3 ou 4 questions en une seule fois, de manière à permettre à chacun d'intervenir. Des questions courtes, si vous pouvez.
Bonjour, je voudrais avoir votre avis. Vous avez parlé de la Commission européenne, de l'Union européenne. Pensez-vous que le traité transatlantique, qui est actuellement en cours de discussion, de façon d'ailleurs très opaque pour les opinions européennes, puisse constituer un vecteur pour une mondialisation civilisée? Merci.
Pour faire un petit peu de diversion, ne m'en voyez pas, je suis un petit peu polémiste. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette définition? Notre époque parvient à camoufler, indiscernable au sein de cet amalgame, l'hégémonie d'un système politique, l'ultralibéralisme, qui, sans être officiellement au pouvoir, a la mainmise sur l'ensemble de ce que les pouvoirs ont à gouverner et détient donc une toute-puissance planétaire. L'ultralibéralisme, ça s'appelle les institutions financières internationales, autrement dit les États-Unis. Nous sommes sous la dictature depuis la fin de la Deuxième Guerre de l'économie, enfin, des États-Unis. Ben, voilà. Et leur programme, c'est dérégulation financière, libre-échange, les privatisations, réduction des salaires, compression budgétaire. Ce qui fait que dans l'application, ça consiste, il faut de la croissance qui implique de la compétitivité. La compétitivité, la capacité à supprimer des emplois, cela revient à dire que pour lutter contre le chômage, rien tel que le licencier. Bon, voilà ce que les gens de base comprennent. D'accord, c'est un peu polémique, hein, nous sommes d'accord, mais il faut bien mettre un peu d'ambiance.
Un jour, vous avez dit que la mondialisation profitait surtout aux grandes entreprises. Comment faire pour réorienter la mondialisation, mieux la diriger pour qu'elle profite à un plus grand nombre de personnes, à un plus grand nombre d'États, et surtout qu'elle permette de réduire durablement les inégalités? Merci.
Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Alors, par rapport à cette double obsession européenne qui serait à la fois conserver les libertés individuelles et puis préserver l'environnement, est-ce que vous pensez qu'il est possible de régler toute la question des externalités négatives dans un système de marché, et notamment avec les régulations actuelles de l'OMC? Merci.
Je pense qu'avec ces 4 questions, déjà, tu as une partie de la soirée qui peut t'occuper.
Oui, bien sûr. Non, sur cette affaire de négociation transatlantique, auquel je me suis exprimé publiquement à plusieurs reprises après que j'ai recouvré ma liberté de parole, ce qui est très agréable. L'idée fait beaucoup de sens, parce que si vous regardez là où on peut créer des efficiences en augmentant le volume de l'échange transatlantique pour que les Européens fassent davantage de ce qu'ils font mieux que les Américains et vice versa, pour revenir à la simplicité Ricardo, aujourd'hui, ce n'est plus les vieux obstacles du genre droit de douane qui protégeaient le producteur national qui sont le problème. Il en reste un peu dans l'agriculture, en Europe et aux États-Unis. Il en reste sur le textile, l'habillement, la céramique, les sous-vises aux États-Unis. Mais bon, c'est le droit de douane moyen transatlantique, ça doit être de l'ordre de 1 ou 2%. C'est une moyenne. Bon, en réalité, c'est plus que ça, parce qu'il y en a tellement qui sont à zéro. Que, bon. Mais ça n'est pas l'essentiel. Là où les gros gains sont à faire, là où 80% des gains sont à faire en termes d'économie d'échelle et d'efficience, c'est effectivement dans les différences de régulation de la précaution. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les voitures, on n'a pas les mêmes crash tests. Bon. Pour des raisons curieuse. On peut dire, ah oui, mais attendez, les Américains, ils roulent surtout sur des autoroutes, et puis nous, on a encore des routes, donc ça, bon, admettons. Mais si vous voulez, ça, c'est des choses qu'on pourrait très bien harmoniser assez vite. Et si on harmonise les crash tests entre l'Europe et les États-Unis, le gros avantage pour nous, c'est que ça va permettre des économies d'échelle dont vont bénéficier nos consommateurs. Mais si on fait ça en euro-américain, on crée la norme mondiale. Ce n'est pas les Coréens ou les Japonais ou les Chinois qui vont inventer un autre crash test que celui que les Américains et les Européens auront inventé. Même chose pour la sécurité alimentaire. Donc, un, ça nous permet de faire des gains d'efficience, donc de croissance. Deux, ça nous donne un certain avantage de first mover, d'être la référence, ce qui se traduit par un certain avantage pour nos producteurs. Et notamment parce que si nous parvenons à acquérir la conduite du niveau de précaution et de l'administration de cette précaution, et là on rentre dans des choses compliquées, nous gardons cette capacité pour l'avenir. Donc nous serons, en quelque sorte, les leaders dans cette matière, ce que nous sommes aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, c'est aux États-Unis et en Europe que le niveau de précaution est le plus sophistiqué. Si je compare, mais un petit peu, enfin, dans une certaine mesure, le Japon, et dans ces domaines, le Mexique et le Canada sont obligés de se mettre à la norme américaine. Nous, on a décidé, nous, Européens, qu'on allait avoir des normes communes il y a 30 ans, quand on a décidé de passer du marché commun au marché intérieur. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de sens, pour toutes ces raisons. Le problème, c'est que, c'est là qu'ils s'y sont très mal pris, de part et d'autre, aussi bien du côté européen que du côté américain, le problème, c'est qu'ils n'ont pas expliqué que c'était de ça qu'il s'agissait. En gros, ils ont vendu la soupe en disant « le libre-échange, c'est bien, ça va faire de la croissance », comme si c'était un accord de plus, comme celui qu'on a avec le Maroc ou la Corée, ou que les Américains ont avec la Colombie ou avec la Jordanie. C'est pas du tout ça. Parce que ça met en jeu des problèmes de précaution, ça soulève des questions très différentes. J'ai décrit ça dans une conférence que j'ai faite à Bruxelles il y a deux, trois mois, justement, la différence entre l'ancien monde de la protection du producteur et le nouveau monde de la protection du consommateur. Si je suis négociateur commercial, ce que j'ai été pendant une période de ma vie, et que je négocie des tarifs, j'ai les consommateurs avec moi et les producteurs contre moi. J'ai les consommateurs avec moi parce qu'ils savent très bien que ça va coûter moins cher. Parce que c'est vrai que s'ils achètent des t-shirts en Chine au lieu de les acheter à l'usine du coin, ce sera moins cher. Mais j'ai les producteurs contre moi. Parce que qu'est-ce que je fais? J'augmente la concurrence de mes électeurs, chez mes électeurs, ce qui n'est pas forcément très confortable. Dans le domaine de la précaution, c'est l'inverse. J'ai les producteurs avec moi, parce qu'ils sont alléchés à l'idée qu'ils vont avoir des économies d'échelle sur un standard commun. Et puis si c'est 300 millions de consommateurs aux États-Unis et 500 millions en Europe, avec 800 millions, et puis pas juste le nombre de consommateurs, mais dont la taille de leur poche, je vais être très incité à pousser dans cette direction. Par contre, le consommateur ou les organisations de consommateurs vont inévitablement avoir le sentiment que ça risque de mettre en cause le niveau de précaution qu'ils ont acquis. Et comme le discours ancien, c'était moins d'obstacles, comme ils n'ont pas bien changé le discours, un certain nombre de gens, en Europe et aux États-Unis, se sont mis dans la tête que ça allait être harmonisé vers le bas. Alors que le seul moyen politiquement raisonnable d'harmoniser, c'est vers le haut. Et de fait, d'ailleurs, dans un tiers des cas, le niveau de précaution américain est plus élevé que le niveau de précaution européen, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent en Europe. Dans un tiers des cas, c'est l'inverse. Et dans un tiers des cas, le niveau de précaution est le même, mais il est administré de manière tellement différente que si je suis producteur, je suis obligé de vendre. C'est comme si les deux niveaux étaient différents. Donc c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et il faut expliquer qu'on va harmoniser vers le haut. Et que cette idée que si on fait ça, on va être obligé de manger du poulet au chlore, parce que c'est la norme américaine, et que du côté américain, ils ont la trouille de manger des fromages avec des bactéries épouvantables, parce que chez eux, ça n'existe pas, parce qu'il faut tout pasteuriser. C'est vrai que si on continue à ne pas expliquer ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire et comment on va le faire, c'est assez normal que ça provoque des résistances. Je laisse de côté le problème spécifique en matière d'investissement, parce que ce n'est pas un problème d'échange, du problème de l'investor to state, qui est ce mécanisme de règlement des différends spécifiques. Bon, votre moment polémique, on peut toujours caricaturer, on peut toujours, disons, gonfler les notions, les mots. La réalité, telle que je la vois, c'est qu'effectivement, il y a un système dominant qui s'appelle le capitalisme de marché. Bon. C'est comme ça. C'est pas qu'on n'ait pas essayé autre chose, c'est pas qu'il ne faille pas continuer à essayer autre chose, parce que je pense que sur le plan philosophique, moi j'ai des problèmes sérieux avec le principe de base du capitalisme, hein. En gros parce que sur le plan éthique, je trouve que c'est un peu un problème que le monde soit divisé entre ceux qui donnent du boulot aux autres et ceux qui ont besoin d'un boulot pour manger. Je trouve que cette relation est très inéquitable, très injuste sur le plan humain. C'est la règle fondamentale du capitalisme. Mais reconnaissons aussi, je suis maintenant suffisamment vieux pour en être convaincu, que donc, ce qu'on a essayé d'autre jusqu'à présent, ça a quand même été en général des catas. Hein, donc, autant je suis critique du système, autant... tant qu'on n'a pas trouvé autre chose, il faut essayer de gérer celui-là au mieux des valeurs et des principes politiques qu'on a. Et de fait, il y a des versions très différentes de ce capitalisme de marché. Je ne pense pas que la Suède soit dans le modèle d'ultralibéralisme hyper dominé par les marchés, etc. Bon. Ni la Suisse, d'ailleurs. Il se trouve qu'ils ont à peu près le même coefficient de Gini qui mesure les inégalités. Bon. Que, pour des raisons géopolitiques et géoéconomiques, il y a un effet de domination des États-Unis, sans aucun doute, ça n'aura qu'un temps. Rassurez-vous, dans 30 ou 40 ans, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ce grand basculement, va se poursuivre. Et à mon avis, si on n'est pas d'accord avec ça, et si on ne veut pas se plaindre dans 30 ans du fait que c'est le modèle chinois qui domine et on ne l'aime pas plus qu'on aime le modèle américain aujourd'hui, ça me ramène à ma conclusion. Hein. Si c'est ça qu'on croit, il vaudrait mieux qu'on intègre l'Europe vite fait, parce que si c'est pour passer du fait qu'on n'aime pas les Américains au fait qu'on n'aime pas les Chinois, disons, du point de vue des progrès de l'humanité, c'est pas formidable. Bon. La dérégulation financière, c'était juste. Les Américains avaient un système de finances non régulé, pas dérégulé, non régulé. Et c'est pas pareil. Alors, une partie avait été dérégularisée, ce qui est vrai, notamment sur les prêts immobiliers, mais dans l'ensemble, il n'avait pas de normes prudentielles suffisantes. Ça, ce temps-là est terminé. Vu le gadin qu'ils ont pris et qu'on a tous pris avec eux, ce temps-là est terminé, même si les progrès de la régulation financière ne sont pas suffisants, parce que c'est comme le gendarme et le voleur, notamment dans la partie du système financier qui n'est pas constituée en institutions financières, tout ce qui est shadow banking, il y a effectivement de nouveau des dangers qui apparaissent. Mais disons, je ne crois pas à la théorie du grand complot, du grand Satan. Il est de fait que nous vivons dans un système qui a ses caractéristiques. Il a diverses versions. Je pense qu'il faut continuer à penser à des alternatives, même si je ne suis pas capable de les écrire ou de les prononcer de forme globale convaincante. Et encore une fois, s'il y a des choses dans ce système qu'on n'aime pas, et il y a des choses dans ce système que je n'aime pas, la seule solution, c'est d'essayer de se mettre au boulot pour que ça change. Est-ce que la mondialisation profite aux grandes entreprises ou aux petites ? C'est vrai que, pour des raisons qui tiennent à la théorie ricardo-schumpeterienne que je simplifiais tout à l'heure, les gains d'efficience, une grande partie des gains d'efficience, viennent des effets de volume qui produisent des économies d'échelle, et que donc ceci est un avantage, aux gros producteurs. Bon. Ça a été le cas pendant très longtemps. On sait maintenant qu'une partie des grands succès économiques des 30 dernières années ne viennent pas des gros producteurs. Ça vient de gens qui ont commencé les trucs dans des garages, ils sont devenus gros producteurs depuis, mais au départ, ils n'étaient pas du tout gros producteurs. Et ça, ça ne colle pas. Il faut faire rentrer tous ces problèmes de théorie de l'innovation pour comprendre ce qui se passe. Ce qui est vrai, c'est que plus l'échange international est ouvert, et plus, par définition, en quelque sorte, l'accès de petits producteurs à ce marché international est facile. Ils ont conclu à l'OMC, à la fin 2013, un accord sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant 3-4 ans, parce que ces trucs-là sont des trucs à cuisson extrêmement lente, pour des raisons de viscosité westphalienne que j'indiquais tout à l'heure. Aujourd'hui, franchir une frontière pour un bien, ça coûte, en dehors du droit de douane, ça coûte à peu près 10%. Hein, parce qu'il y a tellement de paperasse, de coups de tampon, de vérification, plus le conteneur qui attend. Si votre conteneur est plein de mangue et qu'il attend une semaine, vous pouvez passer votre conteneur de mangue côté perte dans les pertes et profits. Et donc la viscosité des frontières, ça coûte aujourd'hui 10% du volume du commerce international. Ça va passer à 5% à la suite de cet accord. En 10 ans, le ticket de 10%, General Electric, il s'en fout, il le paye une fois, ou il a une armée d'avocats qui permettent, ou d'autres moyens qui font qu'on passe plus facilement la douane que d'autres. Bon. Pour les petites entreprises, c'est un problème majeur, ça. Beaucoup d'entre elles ne peuvent pas se peler les coûts d'entrée sur le marché international. Si ces coûts baissent, ce qui est le cas avec ces mesures de facilitation des échanges, alors ça autorise, notamment dans les pays en développement, tout un tas de petits producteurs à bénéficier d'effets d'échelle et d'effets de volume, ce qui n'était pas le cas avant. Les inégalités, dans mon esprit, c'est quand même d'abord un problème domestique. Bon. Il y a, dans le système international, et notamment dans le système commercial, il y avait des inégalités, il subsiste des inégalités, c'est pas normal que les Américains ou les Européens continuent à subventionner leurs producteurs de coton, ce qui endommage la production de coton au Bénin, au Niger ou au Burkina. C'est pas juste, ça. C'est pas normal. Pas demander à ces pays de se battre avec le budget américain ou le budget européen. Donc, il reste un certain nombre de dispositifs de ce type qui sont en quelque sorte hérités du lait colonial, c'est-à-dire de cette domination historique qui a eu lieu pendant un moment, mais ça n'est pas l'essentiel. La lutte contre les inégalités, ça se fait à l'intérieur de communautés, et notamment la communauté nationale, parce que il faut sentir une appartenance pour accepter les moyens collectifs qu'on doit se donner pour réduire les inégalités. Par exemple, d'investir dans l'éducation. L'argent ne suffit pas, comme nous le savons en France, pour faire en sorte que le système éducatif redevienne un réducteur d'inégalités, ce qu'il a été pendant très longtemps, et ce qu'hélas, il a cessé d'être. Bon. Donc ça ne suffit pas. Mais ça, c'est le genre de choses. Il faut, de mon point de vue, un sentiment d'appartenance, un sentiment de communauté, j'accepte de payer ma cotisation pour une forme de redistribution parce que je ne suis pas d'accord avec les inégalités, parce que je veux favoriser la mobilité sociale. Vous n'avez pas ça au plan mondial. Et déjà, au niveau européen, vous n'avez qu'à voir le niveau de solidarité budgétaire qu'il y a au niveau européen, il est microscopique. Le budget européen, c'est quoi? C'est 100, 120, 130 milliards d'euros par an. C'est à peine maintenant 1% du PNB européen. Qu'est-ce que ça dit? Alors qu'on redistribue 50% dans nos pays, ça dit qu'on se sent 50% plus français qu'européen. Si vous interprétez le montant du budget européen par rapport au montant du budget national, c'est ça que ça dit. Et donc, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la légitimité, de l'appartenance, qui fait que c'est quand même au niveau de la proximité qu'on gère le mieux la solidarité, et la lutte contre les inégalités, ça a à voir avec la solidarité. Alors, on peut discuter, disons, sur quel est exactement le bon niveau, mais on en revient à un vieux principe, hein, qui est un vieux principe de la théorie politique, qui est le principe de la subsidiarité, qui est qu'on ne doit élever le pouvoir, on ne doit distancier le pouvoir de ceux qui l'exercent, c'est-à-dire le peuple, qu'avec de très bonnes raisons de le faire, c'est-à-dire en gros de montrer que ça marche mieux comme ça. Et c'est un test qui n'est pas facile à faire. Sur les externalités environnementales, la réponse théorique est très simple. Hein, et d'ailleurs, l'OMC n'y fait aucunement, aucune des règles de l'OMC ne fait obstacle à la réponse parfaite sur le plan théorique, qui est qu'il suffit d'intégrer ces externalités, de les internaliser pour que le coût des externalités soit pris en compte par les systèmes de production. C'est le cas, évidemment, en matière de carbone. Si on avait un prix du carbone qui correspond aux externalités du carbone et notamment au coût du changement climatique, le problème serait réglé. Sur le plan théorique, c'est très facile. Il suffit de mettre le prix du carbone à l'équivalent du dommage que le réchauffement climatique crée. Ça se calcule. Et il n'y a aucun problème à l'OMC pour dire la tonne de carbone, au lieu de valoir 5 euros, on va la mettre à 35 ou à 40. Et donc, du coup, parce qu'on intègre ceci comme une internalité, on désexternalise ces phénomènes, on les intègre dans les processus de production vont s'ajuster et vont cesser d'émettre du carbone parce que ça devient coûteux. Bon. Et encore une fois, rien dans les règles de l'OMC n'interdit ça, rien du tout. C'est la voie par les marchés. Bon. Alors, il y a une autre voie qui est de faire ça par la régulation, parce que comme on n'y arrive pas par les marchés, il faut bien essayer d'y arriver autrement. Il y a d'autres systèmes qui vont dans cette direction. Mais le problème aujourd'hui, c'est pas un problème théorique. On sait très bien ce qu'il faut faire, ce qui est d'augmenter le prix de la tonne de CO2 qui est émise. Simplement, il y a des résistances parce que ça change beaucoup de choses si on le fait. Et donc, on rentre dans des processus politiques, parce qu'il y a des gens qui vont dire c'est bien, il y en a d'autres qui vont dire c'est pas bien, hein, qui vont dire hey, pourquoi ce serait moi qui paierais et pas toi. Et je passe sur le problème global qui est qu'effectivement, aujourd'hui, au niveau de la planète, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une répartition raisonnable, équitable, de la réduction des émissions de carbone. On peut dire il suffirait d'avoir un prix planétaire du carbone. Ouais, sauf qu'avant d'arriver là, il va s'en passer de l'eau sous les ponts des négociations environnementales. Et tout le problème, et j'ai vécu ça à l'OMC, et c'est exactement la même chose en environnement, c'est il faut une répartition équitable. OK. C'est comme le fair trade, hein. C'est comme le juste échange de mes camarades socialistes. Je suis à fond pour le juste échange, sauf que c'est quand même un truc c'est quand même du bon taux, parce que le juste échange, il est juste quand les deux parties à l'échange sont d'accord sur ce qui est juste. Et donc, comme c'est ça que ça veut dire, on n'a pas tellement résolu le problème quand on a dit « je veux le juste échange ». On a simplement dit « il faut qu'ils se mettent d'accord sur ce qui est juste bon. ». Là, on est un petit peu dans le même domaine. Qu'est-ce qui est une répartition équitable des émissions de carbone entre la Chine et les États-Unis ? La vision que les États-Unis ont de ce qui est équitable pour la Chine et vice-versa n'est pas du tout la même. Hein ? J'ai très bien vécu ça à l'OMC et au G20 auquel j'ai participé pendant des années. Les États-Unis disent « Ah mais vous, les Chinois, vous êtes un pays riche. » Bon, d'accord, vous avez encore plein de pauvres, mais vous êtes un pays riche avec plein de pauvres. Et les Chinois disent « Ah non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. On est un pays pauvre avec beaucoup de riches. » Vous vous trompez. Non, non. Et évidemment, selon que, du point de vue des émissions de carbone ou de la régulation du commerce international, selon que vous êtes pauvre avec des riches ou riche avec des pauvres, c'est pas la même règle qui s'applique. Et là, vous retombez sur des problèmes très simples qui sont des problèmes de définition de ce qui est équitable à partir de concepts et de préférences. Alors, tout ça, évidemment, est parfois parfaitement manipulé par des gens pour des raisons politiques. À l'OMC, par exemple, les pays décident eux-mêmes s'ils sont des pays développés ou des pays en développement. Il n'y a pas de règles, on n'applique pas des règles genre Banque mondiale ou autre. Ils décident eux-mêmes. Bon. Alors la Corée, par exemple, à l'OMC, elle se considère comme développée pour ce qui est des produits industriels, mais pays en développement pour ce qui est des produits agricoles. Parce que comme ils subventionnent Big Well leur agriculture, ils veulent bénéficier des flexibilités des pays en développement pour subventionner l'agriculture. Sauf que les flexibilités, elles ont été données aux pays en développement à un moment où les pays en développement n'avaient pas un rond pour subventionner leur agriculture. Donc ça ne coûtait pas très cher de donner des flexibilités. Alors, c'est en train de changer. Mais un pays comme la Corée, lui, a utilisé ses flexibilités. Ça, là, on retombe dans le côté westphalien du système international. Et c'est pour ça que finalement, ce que je pense, c'est que si on n'accepte pas de se confronter à ces questions d'équité, de justice, globalement, et avec des traditions et des modes de pensée qui ne sont pas forcément ceux auxquels on est accoutumé, on va avoir du mal à gérer ces problèmes qui sont devant nous.
Est-ce qu'on prend une dernière question pour conclure ? Deux ?
Ah, alors ?
Est-ce que vous avez encore deux questions ?
Combien Monsanto a payé pour que Bruxelles nous impose la vente des OGM ?
Non, ben, Bruxelles ne vous impose rien du tout. Les règles qui sont en pratique à Bruxelles, et notamment sur le fait de savoir qui autorise la mise en marché de produits OGM ou non, sont des règles qui ont été établies par les pays européens entre eux. Bon, Bruxelles, c'est vous. C'est pas Bruxelles, c'est pas un truc qui est quelque part sur la Lune. Hein. Bruxelles, c'est les États européens. Et c'est les citoyens européens. Les États européens sont représentés au Conseil des États européens, qui s'appelle le Conseil européen. Les citoyens européens sont représentés au Parlement européen, qui est la Chambre des citoyens européens. Et la Commission, qui est de quasi-gouvernement européen, met des propositions sur la table. Et il faut qu'elle recueille la majorité au Conseil et la majorité au Parlement, ce qui est le cas pour le système d'autorisation des OGM. Bon. Sauf que dans le cas européen, comme il y avait encore plein de bagarres entre certains pays européens qui étaient plus pro-OGM que d'autres, on superpose un niveau d'autorisation au niveau européen sur lequel tous les pays européens sont d'accord, et puis un autre niveau, au niveau national, qui autorise, dans certains cas, les pays membres de l'Union européenne à prendre des mesures plus restrictives que celles qui ont été accordé au niveau européen. Voilà. Bon, c'est l'idée que Monsanto impose, c'est pas Monsanto qui impose. Monsanto, évidemment, Monsanto est une grande multinationale qui a beaucoup de pognon et qui a des moyens de lobbying extrêmement considérables. Ça, c'est la loi de nos démocraties. Hein. Moi, je suis pour que WWF ait des moyens considérables parce que comme ça, ça permet d'équilibrer le jeu avec Monsanto. Bon. Mais ce n'est pas Monsanto qui impose, ça c'est un raccourci. La législation européenne en matière d'OGM, elle est parfaitement transparente, on sait qui autorise quoi dans quelles conditions, et encore une fois, ce sont des règles que nous nous sommes données. Et dans la plupart des cas, ces règles se font par consensus. Pas toujours. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, une des grandes nouveautés dans la gouvernance européenne, c'est qu'on peut décider à la majorité. Mais dans beaucoup de cas où on peut décider à la majorité, on ne recourt pas au vote. Moi, quand j'étais commissaire européen, j'ai recouru, j'ai Sur les 5 ans, j'ai demandé, je crois, peut-être deux fois un vote au Conseil. Bon, c'était l'époque où le Parlement européen n'avait pas les compétences qu'il a aujourd'hui en matière de politique commerciale commune. Bon. Mais donc, ce sont des processus qui sont normés, qui existent. Si vous trouvez, en tant que citoyen, qu'il y a, malgré toutes ces précautions européennes qui font hurler les Américains, hein, les Américains, ils considèrent que les Européens sont, ils appellent ça des ludites, hein, ils considèrent qu'on est des hommes des cavernes, hein, vis-à-vis des OGM. Je ne suis pas d'accord avec eux, parce que je pense que effectivement, il peut y avoir un certain danger. Mais disons, si vous trouvez qu'il y a trop de risques sur les OGM, il faut voter pour des gens qui vont limiter les augmentations, les autorisations d'OGM. C'est la loi normale de la démocratie. Aujourd'hui, la réglementation est issue d'un processus démocratique normal dans nos pays.
Je crois qu'on va s'arrêter là. De toute façon, on se retrouvera, si vous voulez bien, les 13, 14, 15 octobre, journée de l'économie. On doit parler de gouvernance mondiale, de criminalité environnementale. Et peut-être qu'on aura une réponse avec Pascal Lamy sur quelque chose que je l'avais entendu dire il y a quelques années. La gouvernance nationale est à l'état solide. La gouvernance européenne est à l'état liquide. Et la gouvernance mondiale est à l'état gazeux. Et je voudrais bien savoir vers quoi nous évoluons actuellement.
Je réponds tout de suite à votre question. D'abord, c'est vrai que j'ai utilisé cette formule, que je vous ai épargnée cette fois-ci, parce que on en a déjà parlé. Mais je crois que la différence entre le solide, le liquide et le gazeux, elle est effectivement de l'ordre du sentiment d'appartenance et d'une certaine communauté éthique. Le solide, c'est là où on est beaucoup d'accord. Le liquide, on est pas mal d'accord, mais pas beaucoup, quand même. Et le gazeux, on est très peu d'accord. Et ça, je pense que c'est une assez bonne manière de représenter cet étage que j'ai essayé de décrire tout à l'heure. Merci pour votre attention et bonne soirée.
Et merci à Pascal Lamy.